Catherine, je reconnais pas cette chanson-là.
C'est pas très reconnaissant, mais c'est le thème officiel des Golden Globes.
Oh mon Dieu.
Jamais.
Par chance que ma vie dépendait pas de la réponse.
Non, absolument. C'est mettre un petit 20$. Non, mais moi-même, j'ai été surprise, mais j'ai été étonnée de savoir qu'il y avait un thème officiel.
OK, les nominations aux Golden Globes sont sorties.
Ce matin.
Et ce qui est important de dire, c'est que les Golden Globes, bon, ça récompense le cinéma, la télé aussi.
Oui.
Et c'est un bon baromètre pour les films qui vont être primés aux Oscars.
C'est pas mal le meilleur baromètre. Le film dont je vous parlais vendredi, Une histoire de mariage, Marriage Story, de Noah Baumbach, reçoit quand même 6 nominations. Mmh. Entre autres pour les acteurs, Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, qui joue une avocate qui est très, très bonne. Et le film est aussi classé aussi comme dans la catégorie meilleur drame. Dans les productions qui suivent, dans le nombre de nominations, il y a le film Joker. Sans surprise, qu'on en avait parlé beaucoup cet automne. Joaquin Phoenix qui reçoit une nomination comme meilleur acteur. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, que tu as apprécié, que j'ai aimé aussi 5 nominations. Et là, après ça, ben il y a Netflix, parce que Marriage Story est présenté sur Netflix. Mais il y a aussi d'autres productions de Netflix qui se démarquent, entre autres le film The Irishman, 5 nominations aussi. Ça, c'est un peu bizarre, parce que pour les acteurs de soutien, Joe Pesci, Al Pacino, ils ont chacun une nomination. Aucune pour Robert De Niro.
Ah, ouais?
Ouais.
C'est bizarre.
C'est vraiment bizarre. Martin Scorsese, lui, en a une pour la réalisation.
OK.
Et il y a un autre film qui s'appelle Two Popes, qui va être distribué sur Netflix dans le temps des fêtes, à Noël, qui lui aussi se démarque avec plusieurs nominations. Je ne l'ai pas vu encore, mais il est en salle présentement.
Parce qu'il faut dire que pour être en nomination aux Oscars, il faut que tu sois sorti en salle. Ça peut être un cinéma, je pense, là, mais il faut que ce soit sorti en salle.
Oui, exactement. Alors,
et
on a
là où
fait
Netflix innove, c'est que ça sort en salle, puis après ça, ça sort sur Netflix partout.
Puis on regarde ça dans le confort de notre salon. C'est ce qui est arrivé avec le film Une histoire de mariage et l'Irlandais, The Irishman. Et là, je me pose la question, je me dis, ça fait quand même beaucoup de productions là, que les gens vont pouvoir voir avant les Golden Globes, parce que les gens se déplacent de moins en moins pour aller au cinéma. Toi, tu as vu The Irishman chez vous.
Moi, là...
Moi, je suis allé le voir en salle.
Révolution, hein? Moi, j'ai adoré ce principe-là du film qui sort, dont tout le monde parle. Tu t'assois à l'heure que tu veux dans ton sofa, t'allumes la télé, tu mets Netflix et tu regardes le film dont tout le monde parle maintenant. Pour moi, là, ça, là, c'est le signe qu'on est à un point tournant.
Je suis d'accord avec toi. Je trouve que la façon dont tu l'expliques, de dire qu'on a une façon hyper spontanée de voir un grand film, je trouve ça chouette. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est que je suis une personne qui apprécie beaucoup le langage cinématographique. Puis je trouve que de regarder un film comme ça, de 3h30 à la maison, c'est pas les conditions optimales. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses qui nous distraient autour de nous, que ce soit la brassée de lavage, les enfants, notre cellulaire, les courriels, quelqu'un qui sonne à la porte. Et je trouve qu'on perd un peu le fil. Ça coupe le sifflet. Moi, j'aime bien être en salle parce que je me trouve plus concentrée. Je trouve que j'embarque plus dans l'univers cinématographique. Et je trouve que l'ampleur de l'écran maximise nos émotions, ce qu'on vit pas chez nous à la maison.
Je t'entends, Catherine, mais... Quand, pour moi, là, aller au cinéma, présentement, là, c'est symbole de trouble. OK,
raconte-moi.
Dans une ère de multitasking, là, prendre mon char, aller me stationner, sortir de mon char, monter, acheter un billet, espérer qu'il va y avoir de la place, que je ne serai pas le nez collé sous l'écran, acheter un popcorn, un Coke à 27$.
Mm-hmm.
Après ça, m'asseoir là, me taper au moins 15 minutes de pub puis de bande-annonce, etc. Et là, voir le film... De nos jours, c'est un effort qui s'en vient trop grand pour moi.
C'est vrai.
Et je comprends, Catherine, toi, là, t'as animé Tapis Rose, t'es allé couvrir le Festival de Cannes, tu regardes des films. Je comprends qu'il y a des gens qui trippent sur le cinéma, là, pour qui c'est une sorte de religion. Mais ma prétention, peut-être que je me trompe, pour la majorité des gens, là, de regarder le film sur leur écran géant ou de le regarder dans le cinéplex dans les conditions que je viens de te donner là, ils vont préférer le regarder chez eux quand ils veulent.
Mais encore, faut-il avoir un équipement qui a de l'allure à la maison? Parce que j'ai fait l'exercice avec The Irishman de le regarder sur mon téléphone. Et puis, à un moment donné, j'ai perdu l'intérêt. Et j'ai fait la même chose l'année dernière. Je suis allée voir un film exceptionnel qui s'appelle Roma, qui était un film en noir et blanc, mexicain, avec des sous-titres. C'est rien pour aider les gens, là. C'est un peu rébarbatif, mais quand je suis allée le voir sur grand écran, J'ai fait, oh mon Dieu Seigneur, quel film incroyable. J'ouvre mon ordi, quand le film sort sur Netflix, j'ai dit, c'est d'une platitude incroyable. J'ai peur qu'il y ait beaucoup d'œuvres qui soient gâchées à cause de ça.
Toi et moi, on est des dinosaures. On a vécu à l'époque où aller au cinéma, c'était un rituel.
Aller voir E.T. au cinéma, c'était-tu assez excitant?
T'as 20 ans aujourd'hui, là.
Oui.
Écoute, je pense que c'est aussi ringard que de dire on va regarder une nouvelle à 6 heures. On va être informé à 6 heures et seulement à 6 heures.
Oui.
Tu comprends? À 6 heures le soir.
Et puis en continu.
Puis un journal, ça ne devrait être que sur du papier. Tu peux pas t'informer autrement. C'est là que je dis qu'on est, on est à un point tournant. Je pense que quand les gens vont goûter à ça, les nouveautés dans leur salon, ils ne voudront plus revenir.
Écoute, me tromper. On va regarder ce qui est à suivre. Mais je suis d'accord que la proposition de Netflix, elle est quand même intéressante parce qu'avant, ils présentaient des films qui n'étaient pas très bons. Mmh. Et là, on commence à présenter des films de qualité. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, on a appris aussi les films, les meilleurs films en langue étrangère.
Au Golden Globes.
Au Golden Globes. On pensait peut-être que Sophie Duras, avec le film Antigone, était pour se classer. Elle n'y est pas.
Non.
Ben, j'explique pourquoi. Ce n'est pas un représentant par pays comme aux Oscars. Donc, il y a le film d'Almodovar, il y a le film Les Misérables, Portrait de la jeune fille en feu, qui sont des films exceptionnels. Parasite, dont je t'ai déjà parlé aussi, qui est un peu comme les bougons de la Corée. Alors, c'est dommage, je n'ai pas là. Et en télé, il y a deux productions qui se démarquent. Unbelievable, qu'on peut voir sur Netflix, qui est excellent, une histoire de viol. Et Tchernobyl, que tu as vu toi aussi, qui est une série fantastique sur HBO. Donc, c'est à suivre. Tout ça va être présenté le 5 janvier prochain, animé par Ricky Gervais.
Série formidable, d'ailleurs. J'étais très satisfait avec mon écran.
Dans ton salon. Hein?
Oui, c'est sûr que ça aurait été plus fun sur un écran de multiplex, mais j'ai pris mon pied en le regardant.
Je l'aime bien, mon sofa, moi aussi, des fois.
Merci, cher Catherine, 15h46. Au retour, on va parler de la maladie de Lou Gehrig.